S'il travaille ce matin. J'étais content de vous voir hier. J'étais content de voir Jadeline aussi. Je crois que ça faisait au-dessus d'un an que je ne l'avais pas vue. Donc, vous lui transmettez mes salutations, bien entendu. Bonjour Rachel. Je ne sais pas qui sont les sœurs qui sont avec toi ce matin. Mais habituellement, il y a Chantal, Mona, Ocilia. Donc, on les salue. Avec toi. Et ça veut dire quoi congé pour toi, Jimmy? Tu restes à la maison, tu t'amuses avec les enfants, tu coupes le gazon, tu vides le garage, tu prépares le déjeuner pour madame. Tu racles le gazon en fait, ouais. Parce que là, il faut nettoyer après l'hiver. Alors, bien le bonjour à notre frère Mérès qui est à la maison aussi. Donc, on va prier et après ça, on lance les activités pour cette semaine. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes. Un lundi, Seigneur, où plusieurs sont en congé. Une journée, Seigneur, pour se reposer. Une journée aussi, Seigneur, pour se remémorer ta parole et être béni, Seigneur, par une nouvelle portion des Écritures aujourd'hui. Alors, on prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir notre entendement, que tu puisses, Seigneur, ouvrir notre compréhension, que tu puisses nous nourrir, nous abreuver. Nous avons besoin de toi. Alors nous te demandons simplement de nous donner ce que tu as préparé de toute éternité pour nous. Nous ne voulons passer à côté d'aucune de tes bénédictions. Et nous voulons, Seigneur, pleinement saisir ta pensée et croître avec elle. Alors bénis ma sœur, bénis mon frère, bénis toute personne qui se joigne à nous au loin. Bénis aussi, Seigneur, ceux qui se connectent et qu'on ne peut pas voir ou identifier ce matin. Que ta grâce, Seigneur, repose sur eux tous. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, je lis pour vous le même passage qu'hier, puisqu'on développe cette semaine la prédication qu'on a partagée hier, qui était effectivement sur le jubilé, mais avec une emphase particulière sur la question du sabbat. Alors, on va revoir quelques notions, les approfondir un peu. Les réexpliquer. Pour ceux qui n'ont pas pu suivre la prédication hier, elle est bien entendu toujours disponible sur la page Facebook de l'Église, sur la page Internet de l'Église, je crois aussi sur la chaîne YouTube au poste de l'Église. Donc, vous pouvez toujours les visionner encore une fois. Alors, je lis pour vous donc dans Lévitique, au chapitre 25, du verset 1. Au verset 8. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, sera un sabbat, un temps de repos pour l'Éternel, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ, tu ne tailleras point ta vigne, tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendageras point les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture. À toi, à ton serviteur, à ta servante, à ton mercenaire, à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années. Et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Alors que Dieu bénisse sa parole, je relis pour vous les versets qui vont être à la base de notre réflexion ce matin. Très brièvement, du verset 1 au verset 4, l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, « Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, « Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui en provient. » J'ai fini. Le verset 4 est fini. Cette semaine, donc, on parle de la question du sabbat. Et pour avoir plus d'explications, je vous inviterai effectivement à prendre le temps d'aller réviser la prédication d'hier, mais simplement vous spécifier une chose. Très souvent, lorsqu'on parle du terme sabbat, on l'interprète ou on le traduit en français par le terme repos. Et c'est une erreur parce que le terme sabbat ne veut pas dire repos. Dans la Bible, il y a environ une douzaine, peut-être même davantage, de termes qui sont utilisés en français pour le terme repos et qui ne sont pas le terme shabbat, le terme du sabbat ou que nous utilisons concernant le samedi ou le 7e jour de la semaine. Le terme sabbat, lorsqu'on va dans l'étymologie du terme en hébreu, lorsqu'on va dans la signification du terme en hébreu, le terme sabbat, shabbat, S-H-A-B-B-A-T, je répète, shabbat, S-H-A-B-B-A-T, ça se retrouve 108 fois dans l'Ancien Testament. Et là, on parle d'un temps de transition. Donc, le moment entre deux étapes, le moment entre hier et demain, aujourd'hui est une transition entre deux journées. Parfois, on parle d'une période de transition. Donc, le sabbat n'est pas nécessairement strictement limité aussi à une journée au samedi. Mais comme on l'a vu dans le texte de ce matin, on va nous parler de 7 sabbats de 7 années. Et à ce moment-là, on parle de périodes qui sont consacrées à Dieu ou des périodes de transition. Donc, une période de transition est la deuxième représentation du terme Shabbat, ou la deuxième explication, va être un temps marqué d'une intermission. Et une intermission, ce n'est pas la même chose que une transition. Une transition, c'est qu'on passe d'un endroit et on va dans un autre, mais une période d'intermission, c'est simplement un arrêt entre deux choses qui pourraient être les mêmes. Ça pourrait être je cuisine 6 jours, j'arrête de cuisiner et je continue à cuisiner les 6 autres jours qui viennent. Donc, une intermission pourrait tout simplement être une pause. Et Dieu amenait son peuple à ce genre de pause-là. Dans ce verset, on va voir que, ou dans ces versets, on va voir que le Seigneur impose une transition lorsqu'on rentre dans le pays de Canaan. 40 ans avant qu'il n'entre officiellement dans le pays, parce que la Bible nous dit que la conversation que Dieu va avoir avec Moïse se passe à Sinaï. Alors c'est dans cette même période où Moïse va recevoir les lois de l'Éternel, les commandements, et ça se passe environ 40 ans avant l'entrée officielle dans la terre promise. Et Dieu va dire, quand vous allez rentrer, voici ce que je veux que vous fassiez au tout début. Donc, en rentrant, vous ne cultiverez pas tout de suite la terre. Vous ne la labourerez pas, vous ne l'ensemencerez pas, vous ne la récolterez pas ou ne la moissonnerez pas. Cette toute première année, qui est une année de transition entre le mode pèlerin, qui était le mode de vie du peuple pendant ces 40 années, et le mode conquérant, voire le mode qui s'établit dans une terre hostile et une terre étrangère. Donc, entre les deux périodes, Dieu va dire, pendant toute cette première année, qui est une transition, voici ce que je veux que vous fassiez, voici ce que je ne veux pas que vous fassiez. Je veux que vous dépendiez de moi pour votre subsistance, comme vous l'avez fait dans le désert, mais dans une nouvelle façon. Au lieu que je vous envoie la manne et les cailles, je vais tout simplement faire pousser aléatoirement dans les chemins, dans la forêt, dans les prairies. Je vais faire pousser de l'herbe, je vais faire pousser des légumes, je vais faire pousser des aliments que vous allez apprendre à utiliser, à connaître, à dominer, à préparer, à cuisiner. Et ça sera pour vous une nouvelle façon de faire. N'oublions pas, il y a deux générations qui rentrent dans la terre promise, et ces deux générations, la seule chose qu'ils ont connue, ou qu'elles ont connue, une génération, la seule chose qu'elles ont connue comme aliment, c'était la manne que Dieu faisait descendre du ciel, et l'écaille qu'il amenait. Donc, eux n'ont pas connu l'ail, eux n'ont pas connu l'oignon, ils n'ont pas connu les melons, ils n'ont pas connu le blé, ils n'ont pas connu l'avoine ou autre. Tout cela arrive lorsqu'ils rentrent dans la terre promise. Donc, c'est vraiment un mode d'opération, un mode de vie qui change pour eux. Et Dieu leur dit, dans cette nouvelle phase de votre existence, je veux que vous preniez du temps pour dépendre encore de moi et vous assurer de mettre les bonnes bases sur votre vie. Alors pour nous aussi, le Seigneur à l'occasion nous amène dans ces périodes de transition entre deux états. Quand on vient à Christ, on rentre dans une période de transition. On ne connaissait pas le Seigneur, on n'avait pas de vie spirituelle, on n'avait pas d'hygiène spirituelle en tant que telle. Et là, on vient rencontrer Christ et après ça, ben, il faut apprendre à lire la parole de Dieu, il faut apprendre à prier, il faut apprendre à reconnaître la voix de Dieu, il faut apprendre à se soumettre à la parole de Dieu et à la voix de Dieu, aux indications de Dieu. Et tout cela représente chez le nouveau croyant, chez le jeune converti, une transition importante. Et cette transition doit aussi s'opérer sur de bonnes bases. Et plus tard, lorsqu'on grandit avec le Seigneur, on se rend compte aussi qu'on va de progrès en progrès. Et quand on parle de progrès, on parle d'étapes qui se succèdent, qui se suivent, qui diffèrent peut-être l'une à l'autre ou l'une de l'autre, mais qui nous permettent toujours d'avancer. Et à chacune de ces transitions, il est important de faire cette dite transition de la bonne manière en mettant Dieu en premier dans tout ce qu'on fait. C'est ce que Dieu voulait imposer au peuple d'Israël lorsqu'ils allaient rentrer dans la terre promise, et c'est ce qui devrait être aussi notre habitude. Mais de surcroît à ce principe de transition, lorsqu'on parle d'une intermission, c'est que Dieu parfois nous amène dans un endroit où il dit « on va prendre une pause ». Je t'amène dans un endroit pour te parler. On se rappelle le terme « exhortation ». Parakaleo en grec, qu'on a revu régulièrement dans nos bénédictions matinales lorsqu'on étudie des textes du Nouveau Testament. Parakaleo veut dire prendre à part. Exhorter, c'est cette idée où Dieu, par moment, nous fait sortir de notre routine, nous met à part pour obtenir toute notre attention et pour nous exhorter, pour nous dire des choses qu'il veut changer, des choses qu'il veut préparer chez nous. Des avenues dans lesquelles il va nous introduire. Donc, il y a ce moment où le Seigneur dit, voici, j'arrête le cours de ton existence, j'arrête ton fonctionnement habituel simplement parce que je veux avoir un tête-à-tête avec toi. Ça se pourrait qu'après le tête-à-tête, tu retournes aux mêmes activités qu'auparavant, mais avec fort de cette rencontre avec Dieu, fort des recommandations que Dieu pourrait t'avoir données sur comment faire les choses, sur comment vivre agréablement pour Dieu. Alors le sabbat, c'est donc cette idée où Dieu opère des transitions dans nos vies et lorsque cette transition s'opère, il vient nous enseigner, nous préparer à la prochaine étape et il nous amène aussi à faire le bilan de cette étape que nous sommes en train de quitter. Quatre points que j'aimerais mentionner ce matin concernant le texte qu'on vient de lire, essentiellement dans les versets 2 à 4. Tout d'abord, on nous dit que c'est un sabbat en l'honneur de Dieu. Et ça, on le retrouve dans le verset 2 et on le retrouve aussi au verset 4. On dit « La terre se reposera ». Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Le terme honoré qu'on a répété encore la semaine dernière, c'est le terme hébreu « kabad ». Et « kabad » veut dire, et c'est l'image qui est restée fortement imprégnée dans les pensées de plusieurs, « rendre Dieu lourd ». Dans cette image de la balance que nous avons constamment devant nous, dans laquelle d'un côté il y a Dieu, et dans l'autre côté de la balance, il y a tes priorités, tes activités, tes besoins, tes désirs, tes pensées. Alors par rapport à cela, lorsqu'on dit qu'on va honorer Dieu, c'est qu'on fait en sorte que dans cette balance, Dieu soit toujours plus lourd que tous les autres items qu'on pourrait mettre dans l'autre réceptacle de la balance. Alors je te pose la question, est-ce que tu es en train d'honorer Dieu? Est-ce qu'effectivement, tu rends Dieu lourd? Alors lorsqu'on parle du Shabbat, lorsqu'on parle de ce temps de transition et ce temps d'intermission, où on va s'arrêter pour réfléchir à ce qu'on a fait jusqu'à présent, une des choses importantes à se demander, c'est quel est l'honneur que je voue à Dieu? Quel est l'honneur que je voue à Dieu? Le premier point, quel est l'honneur que je voue à Dieu? Traduit dans un terme un peu plus usuel ou contemporain, ça serait, mais quelle est ma passion envers Dieu? Est-ce que j'aime bien Dieu? Est-ce que je l'aime foncièrement? Ou je suis passionné de Dieu? Si effectivement il est plus lourd que tout ce qui existe sur cette terre, s'il est plus lourd dans ta balance que toutes choses avec lesquelles il serait en compétition, pense à la chose que tu préfères ou à la personne que tu préfères ou à l'activité que tu préfères. Pense à une chose qui te passionne dans la vie qui ne serait pas Dieu. Tu mets ça dans la balance à droite et du côté gauche, tu places Dieu. Où se trouve maintenant la balance? Est-ce qu'elle penche davantage vers Dieu? Où elle penche davantage vers ton équipe de sport préférée? Est-ce qu'elle penche davantage vers Dieu? Ou je vais dire quelque chose qui choque peut-être, ou elle penche davantage vers tes enfants? Est-ce qu'elle penche davantage vers Dieu? Ou elle penche davantage vers ta profession, vers tes études? Quelle est la passion que tu manifestes envers Dieu? Le Apocalypse au chapitre 2 ou 3, je crois, lorsqu'on parle de l'église de Laodicée, il va reprocher principalement à l'église de Laodicée qu'ils ont perdu leur premier amour. Et lorsqu'on parle de cet amour, ici, on parle de cette passion envers Dieu. Et je comprends qu'on soit tous dans des périodes où, de jour en jour, on change, dans lesquelles il y a des bonnes journées, de moins bonnes journées, il y a de bonnes saisons, de moins bonnes saisons. Mais une chose qui ne devrait jamais changer, c'est notre passion envers Christ, notre passion envers Dieu. Elle devrait constamment croître et prendre de la lourdeur. Alors, la première question pour toi, et pour moi aujourd'hui, c'est ai-je fonctionné jusqu'à présent passionnément envers Dieu? Est-ce que je fonctionne actuellement avec passion envers Dieu? Et ça, c'est vraiment un constat que tu dois dresser. Tu dois te poser des questions qui sont sérieuses, des questions qui viennent secouer, des questions qui sont importantes par rapport à ton fonctionnement d'aujourd'hui. Alors, je te répète la question. Fonctionnes-tu passionnément pour Dieu? La deuxième question, lorsqu'on parle de honorer Dieu, c'est la question de la crainte de Dieu. Évaluer mon respect face aux choses de Dieu. Ici, Dieu va dire, je ne veux pas que vous cultiviez la terre, ni la première année où vous rentrez en Canaan, et par la suite, de façon cyclique, à toutes les sept années, je ne veux pas que vous cultiviez la terre pendant la septième année. Dieu leur dit, c'est un repos pour la terre, c'est un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Et lorsqu'on parle de en l'honneur de l'Éternel, c'est soit le terme kabad, honneur, ou c'est le terme mana, possession. Donc c'est soit un sabbat qui honore Dieu, ou c'est un sabbat qui est propriété de Dieu. Alors, qu'est-ce que je fais avec ce qui est propriété de Dieu? Quel est mon respect? Quelle est mon attitude face aux choses de Dieu? Quelle est mon attitude par rapport aux demandes et aux exigences de Dieu? Foncièrement, est-ce que je crains Dieu? Est-ce que je le crains adéquatement? Et on se rappelle que le terme « craindre » ici n'est pas un synonyme de peur. On ne parle pas de terreur envers Dieu. Ce n'est pas cette façon, ce mode de fonctionnement que certains ont avec Dieu et qui le présente un peu comme un père fouettard. Et dès que tu fais une gaffe, il est là avec son fouet, avec son martinet, avec son bat de baseball pour te frapper sur la tête. Ce n'est pas ça qu'on appelle la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, la bonne définition, les bons synonymes, serait une révérence, une vénération envers Dieu. Alors, dans ta vie de tous les jours, as-tu cette révérence envers Dieu? As-tu cette vénération envers Dieu? Es-tu dans cet état, en anglais, ils ont une expression qui est intéressante, qui est non seulement un son, mais qui est aussi un état d'être in awe, donc être dans l'ébahissement par rapport à Dieu. Es-tu encore aujourd'hui émerveillé par rapport à Dieu? Un tel émerveillement, et je vous ai déjà dit cette pensée que j'ai lorsque je pense à Dieu, parfois j'ai envie de me ratatiner en petite boule par terre, tant j'imagine Dieu grand, puissant, merveilleux. J'ai l'impression que la meilleure posture que je pourrais prendre devant lui n'est pas de me tenir debout en sa présence, mais de m'écraser au sol et de me faire tout petit, par respect à la grandeur de sa personne et aussi par reconnaissance du fait que je suis bien petit, que je ne suis pas digne d'être dans sa présence, que je ne suis pas à même de me tenir et de parler, de regarder Dieu droit dans les yeux. On a ce verset dans Ésaïe au chapitre 4 qui nous parle des archanges dans la présence de Dieu qui ont trois paires d'ailes, qui ont une paire d'ailes où ils se cachent le visage, et ça c'est pour ne pas regarder la splendeur merveilleuse de Dieu parce qu'ils ne s'en sentent pas dignes. Ils ont une paire d'ailes qui leur permettent de voler et qui leur permettent d'aller au service de Dieu. Et après ça, ils ont une paire d'ailes dans lesquelles ils se cachent les pieds parce que dans la tradition juive, dans la pensée juive, dans l'imagerie juive, les pieds étaient cet endroit que même si on l'avait, restait toujours impur. Et Jésus va dire à Pierre à un moment donné, lorsqu'il va laver ses disciples, Pierre refuse, puis après ça, il dit, si tu veux me laver les pieds, il n'y a pas de problème, mais lave-moi tout le corps aussi. Et Jésus va lui dire, mais si vous avez été lavé, c'est simplement les pieds qui vous restent encore à entretenir. Et il y a cette pensée-là de ne pas se sentir à la hauteur devant Dieu, qui fait que les anges, les archanges, les plus hauts placés dans l'armée céleste se cachent le visage et se cachent les pieds, mais qu'ils fonctionnent encore, qu'ils volent encore au service de Dieu. Alors, quelle est la révérence, la vénération que tu as envers Dieu? Est-ce que ça se pourrait qu'avec les années, tu ne sois plus aussi ébahi devant le Seigneur? Est-ce que ça se pourrait qu'avec les années, sa parole ne t'impressionne plus autant? Est-ce que ça se pourrait qu'avec les années, tu ne sois pas dans cet état de contemplation permanent devant Dieu, mais que par moment tu regardes Dieu comme quelque chose que tu as acquis, comme quelque chose que tu maîtrises, comme quelque chose à laquelle tu es habitué, comme une normalité dans ta vie? Et ça ne devrait pas être le cas. Nous devrions rester dans cet état d'ébahissement, dans cet état d'émerveillement devant Dieu. Alors, quelle est la passion que tu as envers Dieu? Et deuxième question, quel est l'état de ta crainte de Dieu? Quel est l'état de ton respect et de ta vénération envers Dieu? Lorsqu'on parle aussi d'honorer Dieu ou d'un sabbat qui honore Dieu, voire d'un sabbat qui appartient à Dieu, on peut aussi parler de la place que j'accorde à Dieu. Quelle est sa position par rapport à moi? Quel est son rôle par rapport à moi? Si effectivement ce verset veut dire non seulement que le sabbat honore Dieu, donc le respect du sabbat va honorer Dieu, le respect de cette période de transition, d'interrogation, d'introspection va honorer Dieu, mais aussi que c'est une pratique qui appartient à Dieu. Alors, quelle est la place que tu accordes à Dieu? Est-il ton sauveur? S'il l'est, c'est déjà une merveille, c'est déjà merveilleux parce que toi et moi étions pécheurs, condamnés à la mort, méritant la condamnation éternelle à juste titre, condamnation qui était déjà placée sur nous. C'est pas comme si elle allait arriver le jour de notre mort. Nous étions déjà condamnés, privés d'accès en Israël, Israël spirituel bien entendu, privés d'accès à Dieu, mais il nous a pardonné, il a enlevé la condamnation et il nous a sauvés. Donc, est-il ton sauveur? C'est une première chose. Mais il ne peut pas être ton sauveur s'il n'est pas aussi ton Seigneur. Mana voulait dire la propriété. Le sabbat, le respect du sabbat était la propriété de Dieu. Ta vie, elle est propriété de qui? Propriété de ton employeur? Propriété de ton institution scolaire? Propriété de tes parents? Propriété de ton conjoint ou de ta conjointe? Propriété de tes enfants? Propriété de ta propre personne? Ou est-ce que ta vie est propriété de Dieu? Et assurément, vous allez me dire, mais on a donné notre vie à Dieu. C'est une chose donner sa vie à Dieu. C'est une chose, effectivement, verbaliser cette décision de dire, Seigneur, je te confie ma vie, je la place entre tes mains pour que tu en fasses ce que tu voudras. Mais c'est une autre chose de vivre ce qu'on a proclamé, de vivre cet énoncé oral ou verbal. Dans la pratique de tous les jours, Dieu est-il propriétaire de ta vie? Dieu peut-il te dire « tourne à droite » lorsqu'il veut que tu tournes à droite? Dieu peut-il te dire « ne va pas à gauche » lorsqu'il veut que tu ailles tout droit? Dieu peut-il te dire « accélère le rythme » lorsqu'il veut que tu marches plus rapidement? Ou peut-il te dire « maintenant tu t'arrêtes » et je te parle pendant 2 semaines et tu ne bouges plus. Et quel est ton cheminement? Ton cheminement est-il fruit de ta décision? Fruit de ta prise de position? Ou ton cheminement, ta croissance, est-elle fruit du fait que tu es possession de Dieu? Alors c'est une chose d'être passionné de Dieu. C'est une chose de craindre Dieu. Mais cette passion et cette crainte de Dieu, à un moment donné, se doivent d'être manifestées par des choix, par des décisions, par des prises de position claires dans lesquelles la propriété de Dieu sur ta vie est manifestée de façon limpide. Il y a des gens qui disent effectivement être propriété de Dieu, mais lorsqu'on analyse un peu comment ils fonctionnent et lorsqu'ils sont honnêtes envers Dieu et honnête envers eux-mêmes, ils se rendent compte, après une brève introspection, qu'en fait, les rênes de leur vie restent entre leurs mains. Qui a les rênes de ta vie? Si ta vie est une barque, qui tient le gouvernail, toi ou Dieu? Si ta vie est un char, un peu comme dans les films épiques qui passaient dernièrement avec Ben-Hur et tout ça, si ta vie est un char, qui tient les rênes auxquelles est attelé ton char? Est-ce que c'est Dieu qui tient les rênes ou tu l'as tassé sur le côté en lui disant « Seigneur, tu es un passager dans mon char. C'est moi qui conduis et c'est moi qui décide la vitesse, c'est moi qui décide la direction, c'est moi qui décide le trajet et la durée du périple. » Si effectivement Dieu est ton propriétaire, ça veut donc dire qu'il a le choix de faire ce qu'il veut avec toi. Est-il Seigneur dans ta vie? Quelle est la seigneurie que tu accordes à Dieu? Dernier point, ici, lorsqu'on parle du sabbat de la première année, lorsqu'on rentre dans la terre promise, et lorsqu'on parle du sabbat de la 7e année, où on arrête les cultures, Dieu est en train de dire... Je ne veux pas que vous soyez préoccupés par quoi que ce soit d'autre pendant cette année que ma personne. Alors, tu te défais de tes activités agraires, tu te agricoles plutôt, tu te défais de tes propriétés au niveau de ressources humaines, parce qu'à la septième année, tu laissais partir les esclaves, tu laissais partir les serviteurs, parce qu'à la septième année, tu arrêtais d'aller voir tes débiteurs pour leur dire « Hey, tu me dois de l'argent » et tu allais ramasser ton intérêt comme ça. La septième année, tu arrêtais le commerce. Pendant un an, tu arrêtais l'agriculture. Pendant un an, tu arrêtais de posséder des esclaves et des serviteurs pendant un an. Pendant un an, on tombait en jachère dans tous les sens du terme et dans toutes les facettes de la société. Et durant ce temps-là, c'était tout simplement que tu priorisais Dieu. Dieu disait, cette première année, je veux que vous vous concentriez sur moi. Dieu disait, la septième année, je vais être l'emphase première de votre existence. Alors, la question pour toi et pour moi, c'est quelle est la place que j'accorde à Dieu ou quelle est la priorisation que j'accorde à Dieu? Et je sais qu'on a tous des responsabilités. Certains sont parents, certains sont époux ou épouses, certains sont propriétaires d'une entreprise, certains sont chefs d'équipe, certains ont un emploi, certains ont des responsabilités au niveau du ministère. Et je comprends qu'on a tous des priorités qui diffèrent d'une personne à l'autre. La chose qui ne devrait pas différer d'un croyant à l'autre, d'un chrétien à l'autre, c'est que Dieu devrait être la première priorité de notre existence. Peu importe quelles sont les autres priorités. Je n'ai pas d'enfant. Comparativement à un parent qui a des enfants, j'ai cette responsabilité-là qui n'existe pas chez moi. J'ai probablement d'autres responsabilités ou d'autres charges que quelqu'un d'autre n'a pas. Mais cette priorité-là des enfants, je ne l'ai pas. Mais par rapport à peu importe la priorité que je pourrais avoir chez moi, il reste que Dieu devrait être cette première priorité. Alors, dans ta vie, peux-tu effectivement dire qu'en tout instant, en toute circonstance, Dieu est ta toute première priorité? Je vous ai déjà expliqué, et je vais terminer là-dessus, cette expérience que j'ai eue il y a plusieurs années maintenant, lorsque par simple générosité pour encourager quelqu'un, je suis allé voir une conférence sur la gestion du temps et ça me fatiguait parce que tout le monde disait toujours « tu mets Dieu en premier, puis après ça tu mets ta personne parce que si tu prends pas soin de toi, tu pourras pas prendre soin des autres, puis tu mets ton épouse, et après ça tu mets tes enfants, et après ça tu mets tout le reste des autres responsabilités que tu as. » Et je trouvais ça trop simple comme raisonnement et trop comme un carcan duquel on pouvait pas se défaire. Je me disais, mais dans la réalité de tous les jours, ça fonctionne pas comme ça. Et le conférencier a abordé la question d'une façon différente en disant, regardez, vous êtes tous chrétiens ici. Donc, la gestion du temps d'un croyant, la gestion d'un enfant de Dieu, ça serait effectivement de mettre Dieu en priorité, mais vraiment en priorité. Et si Dieu est la priorité et le propriétaire de ta vie, ben par conséquent, toutes les autres priorités par la suite, il va t'enseigner comment les placer. Et c'est vrai que parfois, il va mettre ta personne comme deuxième priorité en te disant « Aujourd'hui, prends soin de toi, repose-toi, tu vas en avoir besoin pour les prochaines journées. » Mais parfois, le Seigneur va dire « Non, non, aujourd'hui, tu t'oublies et tu places effectivement madame en deuxième priorité ou tu places monsieur en deuxième priorité. » Pourquoi deuxième? Parce que Dieu est le numéro un. Mais il dit parfois, tu vas arriver et tu vas dire « Non, aujourd'hui, ce n'est pas toi, ni ton épouse ou ton époux qui est la priorité, mais ça doit être tes enfants. » Et parfois, le Seigneur va dire « Non, non, la deuxième priorité pour aujourd'hui, oublie la famille. La deuxième priorité pour aujourd'hui, ça va être ton emploi. Ou la deuxième priorité pour aujourd'hui, ça va être l'église. Ou la deuxième priorité pour aujourd'hui, ça va être un homme que tu ne connais pas encore, que tu vas croiser à l'épicerie et lui va devenir ta priorité du jour. » Donc, lorsqu'on met le Seigneur comme propriétaire de notre existence, on le met aussi comme priorité numéro un et comme priorité qui va par la suite influencer et dicter la chaîne de priorités qui va s'en suivre. Donc, l'important pour toi aujourd'hui, les quatre questions importantes, es-tu encore passionné envers Dieu? Vis-tu une vie de passion avec Jésus? Deuxièmement, est-ce que la crainte de Dieu vient te chercher? Est-ce que tu cherches à vénérer, à révérer Dieu dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es, dans toutes tes pratiques? Est-ce que par la suite, Dieu est vraiment propriétaire de ton existence? A-t-il tout droit et tout contrôle sur ta vie? Et enfin, est-il effectivement la première, toute première, exclusive, première priorité de tous tes jours, de toutes tes préoccupations, de tous tes engagements, de toutes tes responsabilités? Dieu est-il la première priorité? Faire le Shabbat nous permet de dresser un bilan. Est-ce qu'effectivement j'ai été passionné avec Dieu dans le chemin que j'ai parcouru? Est-ce qu'effectivement j'ai manifesté de la crainte de Dieu dans le chemin parcouru? Est-ce qu'effectivement Dieu a été la priorité jusqu'à ce jour? Est-ce qu'effectivement le droit de propriété de Dieu est encore manifeste jusqu'à ce jour? Et ça, c'est faire l'intermission. Le Shabbat qui me permet de voir, de réfléchir à ce que j'ai fait jusqu'à présent. Mais si c'est une transition, ça veut donc dire que Dieu nous amène aussi à nous poser la question et à mettre les fondements, à prendre les décisions pour demain en disant, voici comment j'ai été passionné pour Dieu jusqu'à présent, voici ce que je dois augmenter. Voici comment j'ai craint Dieu jusqu'à présent et voici ce que je dois changer et améliorer dans ma vénération, dans la révérence que j'accorde à Dieu, dans la crainte que je manifeste envers Dieu. Voici jusqu'à présent comment j'ai priorisé Dieu, et voici là où j'ai encore à faire du travail pour qu'il soit effectivement première priorité de mon existence. Voici comment j'ai manifesté le droit de propriété de Dieu sur ma vie, mais voilà aussi des endroits où je dois encore changer pour demain, dans lesquels demain, Dieu va vouloir manifester encore davantage de propriété sur ma vie. Donc le Shabbat, un temps où on dresse un bilan, mais aussi un temps où on prépare l'avenir et demain sur les bonnes bases pour chacun d'entre nous. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On va prier tout simplement pour remettre cette journée au Seigneur et lui remettre la parole qu'on vient de partager. Que le Seigneur puisse la faire pénétrer dans des endroits plus obscurs, moins accessibles de notre existence, et qu'il mette la lumière sur ces différents changements qui doivent encore s'opérer chez nous. Alors Seigneur, nous te bénissons pour cette parole, pour ce début de semaine, pour cette exhortation, Seigneur, qui vient nous poser des questions importantes. Et je prie, Seigneur, que ni moi, ni ma sœur, ni mon frère ne puissions nous soustraire à ces questions, que nous puissions, Seigneur, nous soustraire à cette confrontation avec la réalité de notre état. Effectivement, Seigneur, sommes-nous encore et toujours passionnés pour toi? Comment pouvons-nous, Seigneur, accroître notre passion à ton égard, manifester davantage notre passion à ton égard? Seigneur, est-ce que nous te craignons? Est-ce qu'on t'a vénéré? Est-ce qu'on t'a respecté? Est-ce qu'on t'a révéré jusqu'à présent? Et comment, Seigneur, on peut, pour demain, pour la prochaine étape du parcours, comment on peut s'assurer de te craindre encore davantage, de mener une vie encore plus consacrée à toi? Seigneur, as-tu été la priorité de nos pensées, de nos actions, de notre mode de vie jusqu'à présent? Ou est-ce que la priorité a été occupée par une autre chose, par quelqu'un d'autre, par un autre domaine, par d'autres activités? Et enfin, Seigneur, es-tu effectivement propriétaire de notre vie? T'avons-nous laissé le plein droit inhérent à tout statut de propriétaire sur la vie de quelqu'un? As-tu le droit de commentaire? As-tu le droit de transformation? As-tu le droit d'arrêt? As-tu le droit d'accélérer le processus? As-tu le droit, Seigneur, d'orienter nos vies comme tu le désires? Et te sommes-nous, Seigneur, soumis complètement comme propriété du Dieu Tout-Puissant? Alors voilà les questions qu'on se pose ce matin. Je te prie, Seigneur, d'oindre cette parole par l'onction de ton esprit, de l'arroser par ton esprit, pour qu'elle puisse, Seigneur, croître pleinement, vigoureusement dans nos vies et que nous puissions produire un fruit qui t'est agréable. Dans les prochains jours, pour le restant de notre existence et que ce soit un fruit qui dure et perdure jusque dans l'éternité. Bénis ma sœur, bénis mon frère, accorde-leur de bons moments avec toi aujourd'hui. Parle-leur, instruis-les et puisses-tu, Seigneur, aussi révéler ta pensée quant à leur état manifesté jusqu'à présent, mais aussi, Seigneur, quant à tes plans et à tes desseins pour demain. Nous sommes non seulement, Seigneur, dans un temps de rémission, dans un temps d'intermission, mais aussi, Seigneur, dans un temps de préparation et de transition pour demain. Fais ton œuvre, ta pleine œuvre en chacun d'entre nous. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà, c'était la parole de ce matin. Comme je n'ai pas vu tous les noms s'afficher, je vais donc m'abstenir de vous nommer parce que j'en raterai plusieurs. Simplement vous rappeler notre rendez-vous ce soir avec le pasteur André à 19h. C'est le cours biblique sur le livre des Actes. Donc des enseignements qu'on peut tirer, des expériences vécues par la toute première église, par l'église primitive. De surcroît cela, on vous rappelle que les inscriptions pour l'assemblée de dimanche ont déjà cours. Vous avez un petit encart bleu lorsque vous faites descendre la page de la page Facebook de l'église qui vous donne toutes les informations concernant les inscriptions, soit par téléphone, soit par courriel. Et on commence à faire les appels pour confirmer les inscriptions. Mercredi soir, une première vague et une deuxième vague, ça va être vendredi en après-midi. Donc quand je dis on fait deux vagues, c'est une première vague tant par téléphone que par courriel. Si vous nous appelez, on vous rappelle. Si vous avez donné une adresse courriel ou si on vous écrit par courriel. Donc courriel et appel, il vous faut à tout prix vous inscrire et il vous faut à tout prix recevoir une confirmation de la part du secrétariat pour valider votre inscription. De surcroît à cela, on vous rappelle que dimanche prochain, on aura donc une séance Zoom à 1h30 avec notre assemblée générale pour tous les membres de l'Église. Vous recevrez l'information si votre nom apparaît sur la liste des membres de l'Église. Et pour ce faire, vous vous rappelez que vous devez écrire et dire « Je veux être membre de l'Église, je veux que mon nom apparaisse et mes coordonnées apparaissent sur la liste de membres auprès de la direction de l'Église. » Et vous écrivez donc à secrétariat EAJC en un seul mot, pas d'accent, à commercial@gmail.com. Donc, secrétariat EAJC en un seul mot. @commercial@gmail.com. Alors voilà les petites annonces pour cette journée. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin pour nous, pour la prochaine bénédiction matinale. Sinon, ce soir, rappelons-nous, cours avec le pasteur André sur le livre des Actes. Que Dieu vous bénisse.